Il est 11h très exactement et nous sommes toujours à l'ENS en direct de la journée de la radio. Et tout de suite, nous accueillons Mélissa Buteux, Camille Tichditi et Mallory Pilate pour 100 langues de bois. La guerre des ondes commence. En période de conflit, la maîtrise de l'information est un enjeu de pouvoir et celle des ondes une arme. Je vais laisser nos trois chroniqueuses pirates vous présenter les radios libres et indépendantes. Radio Londres, Radio Free Europe, Radio Pacifica et plein d'autres. Les filles, c'est à vous.
Samedi 12 avril 2014, la journée de la radio.
En partenariat avec Transistor, Transmission, RSP. En direct, toute la journée du samedi 12 avril.
Transistor, Transmission, RSP, pour la journée de la radio.
Eh bien, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette journée de la radio. Et on retrouve actuellement moi-même, Mélissa, ainsi que Mallory et Camille pour une émission intéressée sur le son pendant la guerre. Je crois qu'on peut lancer le jingle et commencer tout doucement. Ou pas. C'est les aléas du direct. Je t'entends très bien. D'accord. Alors, laisse rouler en entier, il n'y a pas de souci, et après je t'indiquerai quand il faudra couper.
Bienvenue sur 100 langues de bois, votre émission axée sur la vérité. Et la vérité, et la vérité, et la vérité, et la vérité. Bienvenue sur 100 langues de bois, votre émission axée sur la vérité.
Good morning! Bienvenue dans notre émission libre. Permettez-moi de nous présenter, enchantée, Mélissa, votre animatrice dans le cadre de la JDR. Mais je ne suis pas seule. Je vous présente Camille et ses magnifiques yeux verts, ainsi que Mallory et sa voix chaleureuse. Salut les filles.
Bébé.
Salut.
Mais qu'est-ce qu'il vient de se passer? Mais qu'est-il arrivé à l'émission sans langue de bois? S'en remettra-t-elle un jour? Eh bien, mon cher Watson, cette fameuse émission politico-culturalo-ENSO-provinciaux sans langue de bois semble avoir été brouillée, recouverte par une émission vachement moins correcte. Mais de quoi s'agit-il? Bon, je te l'explique. Nous ne sommes non pas dans un bateau comme l'équipe de Radio Caroline qui devait, dans les années 70, voguer au large du Royaume-Uni pour émettre et, il me semble, a été repêché 6 fois par les autorités britanniques. C'est cette Margaret Thatcher qui devait être ravie. Non, non, pas de bateau. Nous sommes bien dans un studio à Paris. Notre objectif? Te faire revivre, bébé, la belle époque des ondes qui ont fait remuer les anciens. Tu te surprendras à reconnaître des titres qui bercent les houles ou la swell de ton adolescence. On démarre cette émission en douceur. Tu es à l'aise? Allez, c'est parti. Tout d'abord, dis-moi, tu connais Bob Dylan, les Beach Boys, Leonard Cohen? Ouais, c'est la musique des bolos, là, avec des vraies guitares qui font du bruit sans qu'on les branche, là. Comme Monsieur Cohen l'a dit, le jeune, ouvre bien tes oreilles. Il y a une fissure. Une fissure dans tout. Comme ça, la lumière peut entrer. Je te préviens, tu vas vivre ton premier frisson radiophonique, ma chérie. Là, tout de suite, avec le folk rock et les paroles enivrantes de Bob Dylan. Allez les filles, oubliez Justin Bieber juste le temps de cette émission et laissez entrer la lumière.
On my bed.
Radio en train d'être jamé, d'être brouillé de manière totalement délibérée. Comment décrire cela de manière à faire honneur à la langue de Jean-François Poquelin ? Un son lourd, répétitif, à mi-chemin entre le débarquement d'un cargo et le fait de vider ses poubelles, tout simplement. Ce son si doux à nos oreilles sert à brouiller notre retransmission. D'où est-ce que ça vient ? Notre émission est actuellement en train d'être brouillée par une antenne ou un émetteur plus puissant que le nôtre. En tout cas, plus puissant que la régie là-bas. Désolé les mecs. Vous avez sans doute déjà expérimenté ce désagrément en voiture lorsque vous êtes dépassé par un camion. Le signal se brouille, l'émission radio que vous écoutiez est persécutée par l'appareil radiophonique du camion. Mais ce brouillage ne dure alors que quelques secondes, le temps que le camion vous double éventuellement par la droite. Vous n'avez d'ailleurs peut-être jamais accordé d'importance à ce phénomène, et pourtant, je vous assure que les anciens, eux, écoutaient cela jour et nuit. Et que cette nuisance sonore a été diffusée pendant des années sans interruption. Je propose, dans cette première partie d'émission, de découvrir l'envers de la guerre froide des stations radio. On lance tout de suite une chanson de propagande américaine, à savoir Duck and Cover, qui va vous apprendre à vous protéger en cas d'attaque nucléaire.
Incoming foreign radio broadcast were heavily jammed by the Soviet Union for 40 years with this electronically generated noise, which overwhelmed the voices coming from Munich, London, Cologne, Washington, Jerusalem, Beijing, and Tirana.
We all know the atomic bomb is very dangerous. Since it may be used against us, we must get ready for it, just as we are ready for many other dangers that are around us all the time.
Dum, dum, beetle, dum, dum.
Guerre froide règne actuellement sur ce plateau. On va jouer à un jeu. Je donne des indices franchement corsés. Vous devinez de quel pays je parle en désignant nos deux animatrices. Donc Camille, à ma droite, et Mallory, un peu moins à ma droite, un peu plus proche. Alors, c'est parti. Camille est une superpuissance. Elle aime prêcher la liberté aux autres nations, parce que c'est dans sa constitution, de toute façon, et ça lui impose. Elle distribuait des chewing-gums aux soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. De quel pays est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit de l'Amérique. Donc Camille est l'Amérique. Face à elle, nous avons Mallory, également une superpuissance. Mallory est la patrie du célèbre AK-47, inventé en 1947, évidemment. Pays des tsars, sa politique internationale se résume plutôt par « mêle-toi de tes affaires et puis c'est tout ». Elle est... Eh bien l'URSS, évidemment, attention à ceux qui ont dit la Russie, ce n'est pas d'actualité pour notre émission. Description hautement caricaturale de la guerre froide, je vous l'accorde, et pas franchement couronnée de succès pour une émission ou pour une émission ou un devoir sur papier, je vous l'accorde. Mais caricature essentielle pour introduire le contexte historique de notre première partie d'émission. C'est la guerre froide. Deux blocs opposés idéologiquement se font la guerre. Les deux blocs se lancent dans une course à l'armement pendant 45 ans. Chacun gardant un doigt au-dessus de la Doomsday Machine pour prévenir une éventuelle attaque.
Eh bien, mes enfants, ce coup-ci, ça y est. Les dés sont jetés, c'est le corps à corps atomique avec les Ruskov.
Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que un de mes officiers, commandant une base aérienne, a été en quelque sorte, vous savez, enfin, il n'avait plus tout à fait sa tête à lui. Ah, presque rien, un petit grain. Vous voyez ça? Alors, il a fait une chose assez stupide. Oui, attendez, je vais vous le dire. Il a donné l'ordre à ses bombardiers d'attaquer votre territoire.
Le climat de paranoïa entraîne bien évidemment le besoin d'espionner l'ennemi. Des sommes pharaoniques sont investies dans le développement de matériel électronique sophistiqué. Par exemple, parlons du rouge à lèvres pistolet. Conçu probablement par un agent du KGB dans les années 60, ce gadget permet d'envoyer des balles de 4,5 mm lors d'une séance de maquillage. Également parlons du parapluie bulgare. Ce gadget était utilisé pour injecter du poison sur sa cible. Son nom lui a été donné après avoir servi au meurtre de dissidents bulgares, à savoir Georgi Markov, à Londres dans les années 78. Il aurait ressenti, d'après lui, une piqûre et serait décédé 3 jours plus tard. Outre ces gadgets, aussi insolites qu'inquiétants, l'URSS et les États-Unis investissent surtout pour intercepter les nombreux signaux envoyés dans les airs par les deux blocs. Dans les airs, nous trouvons des messages secrets, la position de sous-marins ennemis, bien évidemment, mais également des messages radio. Et là, vous voyez où je veux en venir, mes chéris. Des stations mobiles et aériennes sont créées et placées de manière stratégique dans les pays alliés des deux blocs. La radio est en fait une véritable arme. Les stations sont instrumentalisées par les services secrets de l'époque. Le KGB, la CIA, l'ASA, que vous connaissez sans doute sous le nom actuel de NSA.
Come your masters of war. Hear the bells of big guns. Hear the bell of death planes. Hear the bell of the bombs. Hear it hide behind walls. Hear it hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks.
L'URSS et les États-Unis créent des bureaux de renseignement spécialisés dans le traitement du signal. On les appelle les SIGINT ou Signal Intelligence. Le but, mais très cher, est d'intercepter les ondes produites par l'ennemi ou de les brouiller, comme elles le sont actuellement derrière moi.
De quoi est-ce qu'il parle, mamie, à la radio? Il parle des œufs, retourne dans ton canapé, papy.
Le SIGINT est composé d'une équipe, eh bien, d'espions de la communication et de l'intelligence électronique, les ELINT. Les ELINT nous intéressent puisque ce sont eux qui capturent les signaux venant de l'étranger. Ils les déshabillent. Ils déshabillent les ondes ainsi afin de créer des technologies capables de brouiller les ondes, de les rendre de plus en plus inaudibles. Il existe 3 types de blocage d'ondes sonores. Préparez vos oreilles, ça va faire mal. Le premier consiste à poser une censure ponctuelle lors d'une émission radio. Une station s'apprête à diffuser un message de propagande et hop, le message qui dérange disparaît. Les humains n'étant pas tout à fait faits pour deviner à quel moment la censure devrait intervenir, la censure ponctuelle n'a pas duré très longtemps. Et puis, je regrette, c'est comme pour certains clips d'une certaine chanteuse qui juge nue une certaine boule de destruction. On met une censure, on finit avec un écran noir au bout d'un moment. La BBC, Radio Free Europe, The Voice of America, The Voice of Israel, les radios de l'Ouest tentent d'émettre désespérément vers le bloc soviétique et ont subi ce désagrément de censure. Mais les méthodes de blocage ont bien sûr évolué. En Chine et en URSS, des bandes son sont rajoutées par-dessus les émissions du bloc de l'Ouest. Si l'URSS passait des spots publicitaires en boucle, ce qui rendait facilement nerveux l'auditeur, repensez tous un instant à Mercurochrome, le pansement des héros. La Chine, elle, a trouvé un moyen bien plus vicieux de renforcer l'amour national en jammant les ondes avec son hymne.
Thank you.
Le blocage radio est devenu rapidement nettement plus violent. Les services secrets et les services d'intelligence électronique ont eu la fabuleuse idée d'agresser le tympan de l'auditeur. À Cuba, des stations s'occupent de brouiller les émissions américaines sur tout le territoire. Les émissions subissent d'extrêmes distorsions, ce qui donne un très agréable et incompréhensible... Ce que vous venez de souffrir, mes très chers, ce sont des ECM, des mesures d'opposition d'ondes. Le Bloc de l'Est explique concernant les mesures d'opposition que l'Union soviétique a le droit de se prémunir contre une agression broadcastée sur les ondes. La diffusion de messages venant de l'Ouest est interdite sans l'accord des territoires soviétiques. Vous le sentez, le mêle-toi de tes affaires et les bombes atomiques seront bien gardées? Le KGB a posté des stations de brouillage à Cuba, au Yémen, au Vietnam, mais surtout au sein de l'URSS. Les antennes étaient placées le long de la frontière est de l'URSS et le long de la mer Noire jusqu'en Asie. L'opération consiste concrètement à établir des relais entre les grosses stations de brouillage locales et les toutes petites stations. Car il faut savoir qu'un brouillage ne peut jamais être total, bébé.
De mon temps, Radio Free Europe était audible très tôt le matin, pendant 10 à 15 minutes.
Assez pour que les populations de l'Est écoutent quelques discours sur la liberté ou le nom de dissidents politiques exécutés en Chine. Attention, voilà le moment chiffre de ma chronique. Plus de 3 millions de dollars ont été investis chaque année par le bloc soviétique pour construire 2000 stations de brouillage. Les stations au sol pouvaient émettre sur une zone de 30 km de diamètre. Sachez que les grosses stations, elles, faisaient entre 100 et 200 kW et couvraient environ des milliers de kilomètres. Vous imaginez bien que le Bloc de l'Est n'a pas forcément bien pris les mesures d'opposition. Comme les Américains aiment à le rappeler, tout le monde a le droit d'écouter, de recevoir et de comprendre les informations via n'importe quel média, et même s'ils proviennent d'autres pays. C'est une question de liberty. Pour le Bloc de l'Ouest, le plan ECM est en fait un gros annuaire levé vers la liberté d'expression.
My name is Ronald Reagan. Last year, the contributions of 16 million Americans to the Crusade for Freedom made possible the World Freedom Bell, symbol of hope and freedom to the communist-dominated peoples of Eastern Europe, and built this powerful 135,000-watt Radio Free Europe transmitter in Western Germany. This station daily pierces the Iron Curtain with the truth, answering the lies of the Kremlin and bringing a message of hope to millions trapped behind the Iron Curtain. Grateful letters from listeners smuggled past the secret police.
Il est donc nécessaire, au nom de cette liberté qui est si universelle et si chère aux Américains, de riposter aux mesures de blocage d'ondes avec un plan permettant de contourner le jamming de l'Est. Le plan ECCM. Je vous le donne dans le mille, c'est un plan de contre-mesure de blocage d'ondes. Environ 20 radios libres, avec une fréquence dirigée vers les services secrets russes, bombardent continuellement la Russie, depuis l'Espagne, le Maroc, l'Allemagne et Israël. Le Signal Intelligence a par exemple placé une fameuse station de Radio Free Europe à Munich. Des rapports d'État indiquent la volonté à l'époque d'en positionner au moins 40, et ce, jusqu'au Sri Lanka. Les années 80 marquent l'apogée de la guerre froide du son. En Russie, en Bulgarie et en Tchécoslovaquie, le jamming a réussi à 95%. Sur une minute de radio, vous percevriez cela. C'était intense. Il reste dans le paysage russe plusieurs stations de jamming. Je vous présente le Woodpecker russe. Cette station possède un pouvoir de pollution visuelle et sonore sans équivalence avec une éolienne. Imaginez, à 60 km de la ville de Tchernobyl, un radar surdimensionné, un quadrillage métallique haut comme la tour Les Poissons, située près de la Défense, soit 150 mètres de haut, 500 mètres de large. Et cette magnifique installation, érigée dans les années 60, produit un signal à haute fréquence d'une puissance de 10 mégawatts, hautement ennuyant. Caractérisé par ce son de picorage qui brouillait régulièrement les podcasts, des broadcasts, j'en perds mon latin, venant de l'Ouest. Autre station connue sous le nom du UVB 76. Cette station aimé depuis... Je suis lamentablement en train de me faire jammer par mes propres montages. Cette station, aimée depuis 1982 à Signal Monotone, un buzz, comme vous venez de l'écouter, qui est diffusé toutes les 25 minutes. La raison de ce buzz, toujours inconnue à ce jour. Certains pensent qu'il s'agit d'un système de main morte, de dead hand. En cas d'attaque critique ou de crise irrémédiable, l'absence de buzz déclencherait le Doomsday. Le lancement d'une bombe nucléaire depuis le territoire russe. Ce qui n'est pas sans rappeler un autre buzz inquiétant sur une île perdue dans une certaine série, dans laquelle un certain Sawyer coupe du bois torse nu dans la jungle. On s'en rappelle, mesdames ? Oh oui, Lost. La folie du jamming est allée très loin. Avant de passer le micro à cette chère Camille, sachez que l'Union soviétique a jammé dans les années 60 des broadcasts canadiens et même la sacro-sainte radio du Vatican. La guerre froide n'a pas pris fin avec la guerre des ondes. On peut parler de paix froide puisque nous assistons depuis les années 60 à une explosion de nouveaux signaux mystérieux dans les airs. Le brouillage d'ondes est donc toujours d'actualité. Le jamming de nombreuses stations existe actuellement en Corée du Nord, aucune surprise à ce niveau-là, en Chine, en Iran et toujours à Cuba. Pour conclure cette première partie, sachez mes chéris que tout ce dont vous avez besoin pour capter un signal, c'est d'une antenne et d'un capteur d'ondes à courte portée.
Closed circuit, Radio Free Europe, recording day 32560. This is take three.
The broadcasting industry presents They Speak for Freedom, a program commemorating the 10th anniversary of Radio Free Europe.
Good afternoon. I'm Don McGanna, and I've been asked to act as a kind of host for this program on Radio Free Europe. The broadcasting industry thinks Radio Free Europe is pretty important, as you can see from the brass that's turned out for this show. We have with us today Gordon McClendon, Leonard Goldenson of ABC, Robert Sarnoff of NBC, Frank Stanton of CBS, and Richard Moore of KTTV in Los Angeles. From the talent end of the business, Howard K. Smith, Arlene Francis, and Martin Block.
Être la voix de la liberté, un phare dans la nuit soviétique, une bouée de sauvetage pour les peuples opprimés, voilà en gros le programme de Radio Free Europe dont je vais, cher auditeur, te conter l'histoire. L'extrait que tu viens d'entendre provient d'un documentaire américain de 1960 réalisé à l'occasion du 10e anniversaire de la station de radio et présenté par les présidents des plus grandes chaînes de télévision et de radios américaines. Bon, tu l'as entendu, le ton de l'émission est très formel, très officiel. Grand-pont en costume-cravate à l'image, gomina à gogo, son de trompette. Ouais, pas très pirate, hein. Bon, et si je te dis qu'il s'agit d'une station de radio américaine, donc, qui émettait vers le bloc soviétique, par-delà le rideau de fer, dans le but avoué de faire s'effondrer le régime de l'intérieur. En toute illégalité, donc, du point de vue de l'URSS. D'où les affreux brouillages que Mélissa a pu te faire entendre. Ben, je pense que cette histoire mérite que l'on tende un peu l'oreille. Alors, accroche-toi, cher auditeur, je t'emmène à la rencontre de Radio Free Europe, la face B de la guerre froide. Let's go, bébé. Mais d'abord, faisons un petit saut dans le temps, de 10 ans en arrière. On se met dans l'ambiance.
Bye bye, baby. Remember you're my baby when they give you the eye. Although I know that you care, won't you write and declare that though I'm...
Nous sommes en 1950. La musique ressemble à ça. Marilyn Monroe, Jane Russell, plutôt sexy. Mais bye bye baby, c'est fini le bon ton. Dans l'après-guerre, la situation géopolitique planétaire n'est pas toute rose. La guerre froide est entamée depuis bientôt 3 ans, le monde est donc coupé en deux, entre l'URSS, les États-Unis, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. Et si la guerre est dite froide, donc sans affrontement direct, ça commence quand même à sérieusement chauffer de part et d'autre de l'Iron Curtain, du rideau de fer donc, bien nommé par le célèbre Winston Churchill. 1950, c'est pas l'année de la liberté d'expression non plus. Aux États-Unis, c'est le début de la chasse aux sorcières, du maccartisme, qui vise à identifier et traquer d'éventuels agents, militants, sympathisants communistes sur le sol américain. En URSS, c'est genre contrôle des gouvernements en place, politique du parti unique, répression des opposants. En fait, on n'aurait même pas pu faire cette émission. Bon, 1950, c'est aussi l'année où le président américain Harry Truman a ordonné à la Commission pour l'énergie atomique de construire la fameuse bombe H. Bref, ambiance. Mais la vraie bombe, bébé, on la lâche sur les ondes. 1950, c'est la date de création de Radio Free Europe.
When I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual.
C'était Tom Jones, l'un des artistes diffusés du côté soviétique par Radio Free Europe. Alors comment faire, cher auditeur, pour te présenter cette station ? D'abord, sache que Radio Free Europe, c'est pas une bande d'amateurs comme nous, embarqués sur un espèce de ratio qui prend loin. Non, les mecs, ils sont quand même créés par le Comité National pour une Europe Libre, fondé en 1949, dont le but est bien d'aider les réfugiés des pays de l'Est de toutes les manières possibles, en particulier donc en leur fournissant un moyen radiophonique de toucher leurs concitoyens. Le but est clair, franchir le rideau de fer par les ondes et amener la bonne parole américaine dans le cœur des peuples opprimés, afin de permettre un soulèvement de l'intérieur. Une stratégie de sape, donc. Ce bébé des médias américains était basé à Munich. De là, tout près de la frontière, la radio émettait sur des ondes courtes vers la Tchécoslovaquie d'abord, puis très vite vers la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, bref, tous les pays satellites. En 1953, est créée Radio Liberty, fondée, elle, par le Comité américain pour la libération des peuples russes. La station complémentaire émet-elle vers l'URSS, en plus de 15 langues, et vise en particulier les différentes nationalités, les différentes minorités de l'URSS. Une vraie tour de Babel, en somme, avec des émissions adaptées à chaque nationalité, des programmes spécifiques. Bon, comme je vous aime bien, voilà un petit extrait rien que pour vous. Le journal, dans toutes les langues, ou presque, du bloc de l'Est. C'est tiré de This is Radio Free Europe, documentaire américain de 1961, plutôt orienté donc à la gloire de ses forçats des ondes.
Tres Montes. My job is newscasting. Reading the news in my native language, Polish.
Wstępie ważniejsze wiadomości w skrócie. Papież Paweł VI przyjął na audiencji prymasa Polski kardynała Wyszyńskiego. Ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej Trójki zdążą dziś rozmowy dotyczące rozbrojenia oraz stosunków między Wschodem i Zachodem.
My colleague, an exile from Czechoslovakia,
The news is straight, factual news, without editorial opinions or tactful omissions. News as you might hear it on the radio in America or in any free country. The news in Hungarian.
De a felmérések szerint további 63 város 1099 iskolájában 680 ezer gyerekről kellene gondoskodni.
New York, Romanian.
Ministri de externe ai Statelor Unite, Marii Britanii și Uniunii Sovietice își vor continua convorbirile la New York în cursul acestei săptămâni, în speranța de a putea realiza noi acorduri privitoare la dezarmare.
And Bulgarian. Each of us reads material prepared by our own national news desks, written according to the specific interests of listeners in each of our countries.
Че китайски гранични войници са открили огън срещу бегалци, търсещи убежище на съветска територия.
Grand succès international donc. En 1976, les deux radios fusionnent. Et sous le président Carter, on va augmenter la puissance des émetteurs audio pour toucher un maximum de gens. Bébé, je crois que la guerre des ondes peut commencer. L'organisation a donc gagné en importance, tu l'as compris, mais tout au long de la guerre froide, elle conserve son objectif originel, combattre le communisme de l'intérieur en diffusant des idées et des informations normalement indisponibles aux habitants du bloc de l'Est. En gros, il s'agit à la fois de fournir des informations sur les sujets intérieurs et régionaux de façon objective, ce qui n'était pas le cas en URSS, de renforcer les sociétés civiles en exposant les valeurs démocratiques, donc de faire un peu de propagande pro-américaine, de promouvoir la compréhension mutuelle entre les peuples, d'établir un modèle pour les médias locaux, en aidant la création d'un journalisme professionnel et indépendant, par exemple, en développant des partenariats avec des médias locaux qui étaient alors opprimés par le gouvernement, et enfin de nouer des liens entre les pays de la région et les démocraties établies. Tu l'auras compris, il s'agit à la fois de faire entendre une information libre, mais aussi de mener une sorte d'acculturation, de mener par les ondes une guerre culturelle, psychologique, et d'offrir aux opinions publiques opprimées à l'Est un premier exercice de droit à l'information. Beau programme en somme. Du point de vue américain. Hein. Parce que pour les soviétiques, c'était pas vraiment ça. Et c'est vrai que, mets-toi à leur place les pauvres. De leur point de vue, cette espèce d'enrobage démocratique et bien-pensant, c'était juste une manière de dissimuler que cette radio était un important outil de propagande pro-américaine. Alors, la question c'est, est-ce qu'elle était vraiment libre, Radio Free, Europe ? Tu viens d'entendre le premier tube du groupe R.I.M., sobrement intitulé Radio Free Europe. Bon, pour la petite histoire, ce groupe américain est connu pour ses engagements politiques et son orientation pro-libérale. La chanson est donc plutôt à la gloire de la station qui a su franchir le mur des ondes. Bon, comment te dire ? Radio Free Europe, c'était pas le seul média américain à émettre en direction du bloc de l'Est. Il existait déjà une radio officielle, La Voix de l'Amérique, mais elle se heurtait à des obstacles, surtout dans une logique de guerre froide où on n'est pas censé s'affronter directement. En gros, les Américains ressentaient le besoin d'une virulence accrue dans la réponse à la propagande soviétique, et ils estimaient que le canal officiel ne permettait pas cette virulence. D'où l'idée de créer une radio « privée », imagine que j'ai mis des guillemets autour de « privée », qui concevrait des programmes spécifiques pour cette partie du monde, et qui ferait appel aux forces vives de l'opposition en exil. En gros, les Américains ont décidé de donner une voix à la dissidence. Et c'est vrai qu'en tant que radio non officielle, Radio Free Europe était moins contrainte à la retenue sur certains sujets. En fait, le but affirmé, c'était vraiment de semer le trouble. Le terme employé par la chercheuse Anne-Chantal Lepeuple est bien celle d'une utilisation de l'information comme d'une arme. L'information comme une arme. Bon, je l'aurais pas mieux dit, hein. La théorie, c'est celle de la libération par l'exhortation à la violence et au soulèvement. Et c'est vrai que lors d'événements cruciaux, comme à Budapest en 1956 ou lors du printemps de Prague en 1968, Radio Free Europe a joué un rôle central en appelant la population à l'action. Et on le lui a parfois reproché. Par exemple, lors du printemps de Prague, l'annonce erronée de la mort d'un étudiant a mis le feu aux poudres. Et si Radio Free Europe n'a pas été le seul média à relancer l'information, elle a pu donner trop d'espoir à certains habitants et ainsi les encourager à affronter les forces de l'ordre, causant parfois des morts. Une espèce de méthode couée donc, mais qui a mal tourné. Bon, après que Radio Free Europe se présente comme un canal de diffusion de l'idéologie libérale, ça passe encore, c'est un secret pour personne. Mais ce qui se savait moins, c'est le lien qu'entretenait la station avec les instances officielles des États-Unis. Alors il faut savoir qu'elle a été fondée à l'initiative du Congrès américain, que les implications politiques sont nombreuses, en particulier le premier président était l'un des membres de la CIA. Ouais, de la CIA, rien que ça. Mais bon, ça se disait pas trop à l'époque, hein. On était quand même assez discrets. Elle était aussi surveillée par un bureau spécifique dont les membres étaient désignés par le président. Et enfin, cerise sur le gâteau radiophonique, les financements étaient largement occultes. La radio se disait privée et lançait de grandes campagnes d'appels aux dons, comme celle menée par le général Clay, sobrement intitulée « Croisade pour la liberté ». Bon, en réalité, son action privée n'était qu'une façade, afin que son engagement n'entrave pas les relations officielles avec le monde communiste. Les dons étaient très peu élevés par rapport au budget de la station. Et devinez qui remplissait 90% des caisses. Bingo, la CIA, encore elle. Bon, du coup, tu vois, c'était plus des corsaires que des pirates, les gars. Ils étaient quand même largement rattachés à l'autorité. Mais il fallait quand même un minimum de courage pour aller titiller les oreilles russes à grands coups d'ondes hertziennes dans les tympans. Ouais, parce que la radio a toujours été la cible d'attaques soviétiques. Par brouillage, donc, comme te l'a raconté et surtout fait entendre, je pense que tu t'en souviens, la douce Mélissa, sache que les Russes ont même parlé de lutte contre l'ingérence informative pour justifier ces brouillages et tenter de les localiser. Mais de manière aussi plus violente. Ils ont ainsi pu mener des attaques directes contre la station et ses animateurs. Petite anecdote, les employés de la radio ont un jour eu la surprise de trouver de l'atropine dans les salières de la cantine. Qu'est-ce que c'est l'atropine, tu me diras ? Je cite le Videl. Une substance utilisée en médecine qui provoque accélération du rythme cardiaque, diminution des spasmes, baisse de certaines sécrétions et qui a aussi un effet dilatateur de la pupille. Alors nous, en tant que pirates des ondes, on n'a rien contre la consommation de substances à effet pupillodilatateur, hein, rassure-toi. Mais bon, quand on sait qu'à forte dose, l'atropine a un effet létal, on comprend qu'ils aient tous un peu flippé. La drogue, c'est mal, les enfants. En 80, l'immeuble a carrément été victime d'un attentat à la bombe, dont le KGB a reconnu 10 ans plus tard être l'auteur, et qui a causé beaucoup de morts, en particulier dans le service Tchécoslovaquie, avec qui les relations étaient un peu tendues à l'époque. À côté de ce coup d'éclat, sache que harcèlement, menaces sur les animateurs et sur leurs proches, c'était monnaie courante. Ambiance guerre froide, on vous l'a dit. Tu l'auras compris, faire de la radio à l'époque, c'était vraiment pas de tout repos. C'est que, comme le disait Riri le 20 avril 1950, bon, Riri c'est pas Ryan Gosling, c'est le président Harry Truman, mais suis un peu. Bon, comme le disait Riri en 1950, il s'agit avant tout d'une bataille pour l'esprit des hommes. Et dans cette bataille, Radio Free Europe a, pour le meilleur et pour le pire, question de point de vue, joué un rôle non négligeable. Oui, c'était encore Tom Jones, parce que c'est quand même super cool, Tom Jones. Ah merde, c'était Elvis. Donc c'était Elvis, parce que Elvis, c'est super cool.
Et on a le droit de dire merde parce qu'on est en France.
Parce que c'est pirate. Oui, tu as entendu du rock'n'roll, bébé. Parce que la guerre froide, c'est avant tout une guerre psychologique dans laquelle la culture jouait un grand rôle. Donc c'est pas vraiment étonnant que les Russes aient aussi mal vu que l'on vienne balancer du rock'n'roll sur leurs ondes et qu'ils aient désiré protéger les âmes et les oreilles russes des perfides paroles de la ville Amérique. C'est qu'à partir de la création de Radio Liberty, la stratégie de la station passe du concept de libération à celui de libéralisation. La technique est celle d'une usure graduelle, plus insidieuse, par rapprochement de point de vue et osmose culturelle. Le soft power en marche. Donc, puisqu'on a entendu Elvis, parlons musique. Tu auras reconnu le King, pas comme moi, qui nous chante ici une petite chanson sur le thème de la prison. On est bien dans l'ambiance barbelée et barreau, je trouve. En effet, que seraient les années 50 et 60 sans le rock'n'roll ? Une musique subversive ? Peut-être. Occidentale en tout cas. Et donc difficilement accessible dans le bloc de l'Est. D'où l'engouement de la jeunesse pour la radio interdite. Dans une interview accordée à Radio Prague en 2011, Pavel Pechacek, animateur à Radio Free Europe en 68, puis directeur de la station en 89, raconte. Il est intéressant de remarquer que l'opposition au régime, en Pologne, est venue du monde ouvrier, alors qu'en Tchécoslovaquie ou en Bohême, elle émanait des intellectuels. Il s'agissait surtout de jeunes gens qui essayaient de s'accorder à cette culture des années 60. Il y avait la musique, le jazz, et c'était déjà le cas dans les années 50, la pop, le rock. Et puis petit à petit, durant les années 60, les gens ont essayé de briser le joug de l'art officiel réaliste socialiste. Tu l'auras compris, l'opposition au régime naît d'un engouement pour la culture américaine, en particulier pour sa musique en plein essor. Et Radio Free Europe joue un rôle de passeur dans cette musique. Le geste subversif, donc, propre à la jeunesse, qui est de se tourner vers les nouvelles idoles du rock'n'roll, l'est plus encore dans un pays où l'accès à cette culture est un geste de revendication politique. Et Pavel Pechacek de poursuivre. En Tchécoslovaquie, durant la seconde moitié des années 60, cette musique se développe fortement. Le régime n'a pas pu l'empêcher, mais a su l'utiliser à son profit. Radio Free Europe diffusait dans les années 60 et 50 des après-midi musicales, très prisé par la jeunesse. Le succès de ces émissions a poussé le régime à proposer à la radio tchécoslovaque une émission, Microforum, reprenant le même créneau. Le but était de couler l'audimat de Radio Free Europe, alors très important. On a là un super exemple du soft power américain, mais aussi une première évolution de la politique soviétique en matière de contrôle des ondes. La stratégie ici n'est plus d'empêcher la radio américaine d'émettre en la brouillant, mais de surfer sur l'engouement des auditeurs pour cette culture, en proposant un programme concurrent, mais au contenu conforme aux idées du régime. Ironiquement, pour des communistes, on est presque dans une logique de l'offre et de la demande. Bon, il ne s'agit pas ici de faire l'apologie du rock'n'roll, bébé. Quoique, on aime bien ça. Il n'empêche que le rapport défiant du régime soviétique à l'égard de la musique venue d'Amérique n'est pas qu'une longue crise de paranoïa. En effet, dans un système reposant sur la contrainte, les messages contestataires portés par le rock ont, à n'en pas douter, contribué à leur façon à lézarder le rideau de fer. Ainsi, pour le chercheur Pierre Grosset, la constitution de zones grises mal contrôlées par le pouvoir et l'idéologie pacifiste, hédoniste et libertaire transpirante dans les textes des années 70 ont certainement participé à la délégitimation des régimes communistes. La contre-culture rock fut sans doute plus efficace que les intellectuels dissidents pour miner le régime. Et après, on vous dit que la musique adoucit les mœurs. Enfin, une grande partie des programmes de Radio Free Europe était liée au divertissement, et en particulier au divertissement sportif. Ça semble un peu bizarre dit comme ça. Pourquoi s'embêter à faire passer des informations aussi anodines de l'autre côté du rideau de fer ? Vaclav Havel lui-même, le célèbre dissident, s'est posé la question. Mais notre animateur lui a répondu. Les gens écoutent ces émissions de sport avec beaucoup de plaisir. Ils veulent savoir ce que font les émigrés. Comment jouent nos hockeyeurs à l'Ouest ? J'étais convaincue que par le sport, les gens restaient à l'écoute de la radio et donc ils écoutaient aussi les nouvelles politiques. Pour cela, c'est moi qui ai eu raison, et non pas Vaclav Havel. Le rôle subversif de Radio Free Europe est, tu l'as compris, passé largement par le biais de la culture populaire. Et ce qui était le plus anodin en Amérique, un match de hockey, une chanson de rock, devenait, de l'autre côté de l'Atlantique, de l'autre côté du rideau de fer, la chose la plus subversive et la plus dangereuse qui soit. Et oui, même un match de hockey. On a fini sur les Clash, et avant de laisser la parole à Mallory, sache que Radio Free Europe, finalement, c'était quoi ? Ben, c'était ouais, une radio contrôlée par le pouvoir américain, un instrument de propagande libérale, ok. Mais c'était aussi un canal de liberté et de pluralité pour les peuples d'Europe de l'Est. C'était leur seul accès à une information non contrôlée par le régime. En gros, même si c'était un outil géopolitique aux mains des Américains, ces radios restaient, pour les populations, la seule source d'informations extérieures disponibles. Alors, chansons, résultats sportifs ou même propagande pro-américaine, on s'en fiche, tout était bon à prendre. Tu l'auras compris avec cette petite émission, je l'espère, cher auditeur. Pour franchir le rideau de fer, il n'était pas d'autre option que de passer par les airs. La guerre froide, c'était aussi la guerre du son, la guerre des ondes, bébé.
Ah, Chuck Berry, qu'est-ce que c'est bon. Bon, allez, assieds-toi, bébé, parce que moi, je vais te raconter une autre histoire. Moi, je vais te parler de paix, et plus précisément de pacifisme. Oui, monsieur, oui, madame, je vais te parler de Pacifica, une station de radio créée, comme son nom l'indique, pour promouvoir la paix. On est en avril 1949, et la première station du réseau créée à Berkeley, dans la baie de San Francisco, s'appelle KPFA. L'histoire de KPFA et de ses petites sœurs nées plus tard à Houston, Los Angeles, New York City et Washington, c'est avant tout une histoire de résistance. C'est l'histoire d'hommes qui ont refusé de se battre pendant la Seconde Guerre mondiale, d'hommes et de femmes qui lisaient et qui écrivaient des journaux pacifistes et qui participaient à des manifestations anti-guerre. Le credo, emprunté au numéro un des pacifistes à l'époque, A.G. Must, est très simple. There is no way to peace. Peace is the way. Le nom à retenir, c'est Lewis Hill, parce que c'est lui le papa de Pacifica. Et comme beaucoup de jeunes hommes dans les années 20, Hill est passionné de radio. Sa famille était dans le pétrole et le paternel aurait bien aimé qu'il reprenne l'affaire, mais encore une fois, il y avait résistance. Hill est allé à Stanford et c'était un homme très cultivé. Il étudie la philo et s'identifie très vite à l'existentialisme. L'idée simplifiée pour vous, les cocos, c'est que pour le meilleur et pour le pire, l'être humain est complètement libre de sa vie. Donc pour Hill, en changeant l'individu, on peut changer la société. En sortant de Stanford, il est particulièrement optimiste. Il est persuadé que chaque être a le pouvoir de redéfinir l'ensemble des relations humaines. Et quand la guerre arrive, Hill refuse de servir et devient objecteur de conscience. Il veut démontrer aux gens que le pacifisme est non seulement un modèle de politique viable, mais que c'est même le meilleur modèle. Et pour ce faire, il se tourne vers un média qu'il connaissait déjà, et que vous et moi on connaît très très bien, la radio. L'autre motivation des créateurs de Pacifica, c'était de lutter contre l'aspect commercial et superficiel qui avait investi la radio et les médias en général depuis quelques années. Les présentateurs lisaient des textes qui n'étaient pas d'eux, la programmation était contrôlée de très près par les financiers, voire censurée, la pub avait envahi les ondes et le peu de programmation qu'on entendait entre chaque spot était vraiment d'une qualité douteuse. Hill a bien essayé de faire passer ses idées dans les radios de l'époque, mais le système l'a tellement écœuré qu'il a très vite démissionné pour mettre les voiles. Et à l'époque, le seul endroit où il pouvait faire accepter son utopie, c'était la baie de San Francisco.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same.
Et oui, les cocos, à l'époque, Frisco, c'est the place to be pour tous les rebelles dans l'âme. Ce que Hill et ses collaborateurs veulent, c'est être complètement libre. Libre dans la programmation, libre dans la création, pas d'influence commerciale, pas de lobby. Et pour cela, il a une idée complètement nouvelle. Il va créer une radio entièrement financée par ses auditeurs et qui diffuserait dans toute la baie. Ils s'installent pour des raisons techniques dans la petite ville étudiante de Berkeley et montent leur projet, une radio qui appartient à ceux qui l'écoutent. Mais les premiers nuages arrivent très vite. Dès 1950, KPFA trouve son premier ennemi, le sénateur Joseph McCarthy, qui lance la chasse aux sorcières dont Camille vous a déjà parlé. Et tout ce qui ressemble de près ou de loin à du communisme est jugé dangereux. Le truc, c'est que plus le gouvernement essaye de faire taire les animateurs à cause de pseudo-liens avec le communisme, plus cela pousse la station à défendre la liberté d'expression et le Premier Amendement. Je vous avais prévenu, résistance. Et après quelques années, la station change sensiblement. Elle entre dans une ère de provocation face à l'anticommunisme du régime et laisse de côté son premier discours pacifiste. Bah oui, parce que essayer de défendre le dialogue et la tolérance dans un pays où on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense, là, ça n'a plus vraiment de sens. En fait, à l'aube des années 50, KPFA développe une image de refuge. Le but n'est plus vraiment d'être une force de changement social, mais au moins une planque à l'abri de l'Amérique mainstream. Je vous propose d'écouter une publicité de l'époque pour vous mettre dans l'ambiance.
When you can't be with him, be in his mind sticker.
When you can't be with him, be in his mind. Be a mind sticker with a shape he can't forget.
Je vous épargne la fin de la publicité. Concrètement, ce que Coca-Cola nous dit ici, c'est que si on veut que son mari reste, il faut boire du Coca-Cola allégé pour rester belle et mince. Super ambiance. Donc au milieu de tout ça, KPFA essaye d'offrir un endroit où peuvent être exprimées des opinions qui seraient interdites ailleurs. Elle donne le micro à des voix qu'on n'entendait sur aucune autre radio, et n'importe qui capable de représenter un point de vue politique pouvait parler. En lien avec cette philosophie, c'est toute la Fondation Pacifica qui définit une nouvelle ligne éditoriale. Couvrir tout ce qui n'est pas couvert par les autres médias, analyser tout ce qui se passe et fournir aux auditeurs une nouvelle approche des événements. La règle, c'est de diffuser des programmes courageux.
How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must a white dove see before she sleeps in the sand?
Eh oui, mon petit Bobby. Tu t'en doutes, cette philosophie tombe à pic pour la guerre du Vietnam. Un petit récap pour ceux qui n'écoutaient pas vraiment en cours d'histoire. La guerre du Vietnam commence plus ou moins en 1954, quand les accords de Genève séparent le pays en deux. Et ce conflit, c'est l'opposition de deux blocs. On y revient toujours à ça. D'un côté, la République démocratique du Vietnam, soutenue matériellement par le bloc de l'Est, et également par le Front national de libération du Sud-Vietnam, que ses adversaires appelaient les Viet Cong, un nom péjoratif. De l'autre côté, on a la République du Vietnam, donc le Sud, militairement soutenue par l'armée des États-Unis. Les Américains envoient une première mission militaire à Saigon en octobre 1955. Et quand le 20 janvier 1961, Kennedy débute son mandat, il confirme l'interventionnisme américain et l'armée passe de 170 000 à 270 000 hommes. À la maison, on est plutôt divisé sur la question de l'interventionnisme. Et il faut quelques années pour que l'opinion se mobilise vraiment. Cela dit, dès 1963, donc très tôt dans l'histoire des mouvements anti-guerre, Pacifica diffuse une discussion par E.F. Stone et Bertrand Russell, qui sont tous deux opposés à l'engagement américain au Vietnam. Après la mort de Kennedy, son vice-président Johnson prend le pouvoir. On est en 1964 et les États-Unis s'engagent un peu plus dans le conflit. Le président annule le retrait partiel des troupes, augmente le contingent et demande l'aide de plusieurs alliés des États-Unis. Le moteur, c'est encore et toujours cette peur de l'extension du communisme. En parallèle, back home, la mobilisation prend de l'ampleur. Il est très probable que l'un des mouvements les plus influents dans la lutte contre la guerre, le Free Speech Movement, ou FSM, que vous venez d'entendre pendant une manifestation, est né en partie grâce à l'influence de KPFA et grâce à l'ambiance qu'elle a créée dans la baie. Et oui, le mouvement est né à Berkeley, à quelques pâtés de maison du studio, au cœur du campus de l'université. Les étudiants et les profs ont d'ailleurs été les premiers à écouter la radio et à participer aux débats et aux émissions. La station était là à la naissance du mouvement, et ces journalistes étaient même là lors d'un des événements les plus marquants de la lutte contre la guerre.
The situation in front of Spall Hall has become absolutely chaotic. Standing around the outside are the demonstrators seated around the police car are perhaps twice as many opponents of the group sitting as there are people sitting. They have been shouting to get the car moved. They want to take the car out. Now, coming through Seder Gate from inside the campus.
Ce que vous venez d'entendre, ce sont des étudiants sur le campus de l'Université de Californie à Berkeley qui ont pris possession d'une voiture de police qui était entrée sur le campus pour les empêcher de promouvoir leur mouvement anti-guerre. On est en octobre 64 et l'événement marque vraiment le ton de la révolte étudiante anti-guerre et anti-capitaliste de toutes les années 60. Et KPFA est la seule radio autorisée à être là. D'ailleurs, plus tard, quand CBS a voulu monter des reportages sur le FSM de ces années-là, elle a demandé des enregistrements à Pacifica. En gros, dès que quelque chose en lien avec la révolte étudiante anti-guerre se passe, il y a un micro de Pacifica quelque part. En fait, c'est surtout la petite sœur new-yorkaise de KPFA, nommée WBAI, qui a été la plus engagée dans la couverture du Vietnam. Entre le milieu des années 60 et la fin du conflit, c'est même son action principale. En 1969, WBAI fait partie du peu de médias qui révèlent les horreurs du massacre de My Lai, au peuple américain. En bref, le rôle de la radio dans la lutte contre la guerre passe d'abord par l'information et la prise de conscience, puisque les gens ne sont absolument pas au courant de ce qui se passe. Elle est là aussi pour rappeler que cette guerre est illégale, puisqu'elle n'a jamais été validée par le Congrès. Le deuxième moyen d'action, c'est de donner la parole à des gens qui sont contre le conflit.
An important subject, nevertheless, because the issue that I will be discussing today is one of the most controversial issues confronting our nation. I'm using as a subject from which to preach why I am opposed to the war in Vietnam.
Eh oui, mais Coco, c'est bien Martin Luther King Jr. qu'on entend dans cet extrait, diffusé le 30 avril 1967, et dire qu'il est opposé à la guerre au Vietnam. Le fait d'avoir une figure aussi influente du mouvement des droits civiques prendre position contre le gouvernement, c'est très fort, et c'est sur Pacifica que ça se passe. En 1970, il devient très clair pour tous les Américains ou presque que l'intervention américaine est une énorme erreur et tout le monde est contre la guerre. Mais attention bébé, ne te méprends pas. Malgré son aspect hautement politique dans ces années-là, Pacifica était aussi et d'abord une radio culturelle. D'ailleurs, Hill l'avait déjà dit en 52, « As long as I can communicate, I can create. And as long as I can create, I am free. » En fait, c'est ça le credo de la contre-culture des années 60 et du soft power dont Camille vous a parlé. À travers des codes qui leur sont propres, les gens disent qu'ils ne sont pas d'accord. On peut regarder le Black Movement, par exemple, qui reprend les codes vestimentaires africains, comme les dashiki, qui développent une esthétique noire, qui met en avant la soul music, la soul food, etc. À cette époque-là, afficher une culture différente de la crasse commerciale mainstream qu'on a pu entendre plus tôt, c'était un geste politique en soi. Et là encore, Pacifica est en avance sur son temps, puisque dès sa création, KPFA passe énormément de programmes musicaux, des opéras, des émissions de théâtre, des critiques de cinéma et des lectures de poésie en live. D'ailleurs, dès 1950, elle entretient des liens très proches avec la Beat Generation et la San Francisco Renaissance, représentés par des poètes comme Allen Ginsberg, extrêmement controversé avec son poème Howl, pardon, publié en 1955. J'aurai pas le temps de vous lire un extrait, malheureusement, mais je vous conseille vivement d'aller regarder. En gros, si on résume, diffuser des sons de résistance, c'était bien ça, la mission de Pacifica, que ce soit avant, pendant ou après la guerre. La leçon qu'on peut en tirer, parfois la résistance, ça passe mieux en chanson.
Goodbye.